toutes et tous et bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, on va parler théâtre avec Philippe Cyr, qui est le metteur en scène de la pièce de théâtre Le Poids des Fourmis, qui devrait être présentée à la salle Fred Barry du théâtre Denise Pelletier. Donc on en parle dans un instant. Et puis en deuxième partie, quelle chance! quelle merveille,
Oh là là,
mon Dieu, je n'en reviens pas. Je suis tellement heureuse que Mathieu Tessier soit avec nous pour sa
chronique.
Chèque
avait rebondi.
La toponymie d'un accentué.
Bonjour.
Tellement contente, Mathieu. Merci mille fois d'être avec nous. Ça me fait plaisir.
Trop, c'est comme pas assez, Arlène.
Ah ben oui, mais là, tu m'as dit que chaque fois, j'étais super désagréable avec toi. Donc là, je retartine, je rebeurre encore plus pour voir si ça va marcher.
Ça marche.
Donc, on va parler de la ville de Saint-Venant-de-Pâquerette. Alors,
non,
je connaissais pas du... De Pâquerette.
De Pâquette.
Pâquette, ah, Pâquette. J'ai compris, Pâquerette. Pâquette.
Non, mais ça, c'est une déformation de ma part. Je suis incapable de dire mise en onde et mise en scène, et je suis incapable de dire Pâquerette sans dire Pâquerette.
D'accord, mais en tout cas, je trouvais le nom très joli, je ne connaissais pas l'endroit, donc on va en parler en deuxième partie de l'émission. Alors, avant de parler théâtre et de parler du poids des fourmis, on va écouter la très belle chanson de Stromae. Je suis tellement contente qu'il revienne à la scène, là j'ai... C'est un plaisir fou pour moi, puis je ne suis pas la seule, hein, je fais partie de tous ceux qui l'aiment, et Dieu sait s'il y en a. Donc on va écouter L'Enfer.
Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires. J'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé? Et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Voilà, alors on a écouté Stromae qui nous chantait L'Enfer et maintenant on est avec Philippe Cyr. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission.
Merci beaucoup.
Ça fait tellement longtemps qu'on essaye de se parler.
Ben oui.
On peut pas. Alors, Philippe, avant qu'on parle du poids des fourmis, je voulais te dire que s'il y avait une pièce qui m'avait secouée, que j'ai jamais oubliée depuis les années que c'est passé, c'est le brasier.
Ah, ça me fait plaisir.
Mon Dieu, j'ai adoré tellement, tellement l'histoire, la mise en scène. C'est quelque chose qui m'a secouée pendant des années.
Ah, ça me fait plaisir de vous entendre. C'est effectivement un projet qui est chaud à mon cœur aussi, qui est d'ailleurs du même auteur que oui. Le poids des fourmis, hein, David Paquette.
Oui, c'est ça. Et j'ai vu ça et je me suis dit, ah mon Dieu, c'est celui qui a fait la mise en scène du brasier. C'était trop bien, quoi. Je suis sortie de là, j'étais complètement secouée et ça m'avait renversée. Voilà, je tenais à te le dire avant qu'on commence.
Ah, c'est gentil, merci beaucoup.
Voilà. Donc, parlons un petit peu du poids des fourmis. Alors, quand on lit... moi, je ne l'ai jamais vu. Hein. Donc, le poids des fourmis, je ne l'ai pas vu encore. Oui. Mmh. Et ça avait déjà été joué. Et quand j'en lis l'histoire, je me dis que ce n'est pas possible. On dirait que ça a été écrit aujourd'hui pour maintenant.
Oui, effectivement, les éléments de correspondance avec notre époque sont assez troublants, mais c'est normal en même temps. Hein. C'est l'histoire, c'est deux jeunes qui font face à une espèce d'anxiété généralisée face aux nombreux défis de leur société. On pense à la pollution, on pense à la pauvreté, aux guerres, et puis même il y a des éléments qui nous font maintenant penser à la pandémie dans le texte. Donc on peut dire que David a écrit ça avec beaucoup d'acuité, voire avec une espèce de légère anticipation.
Prémonition.
Oui, c'est ce que j'allais dire, il a eu des prémonitions.
Prémonition, c'est le bon mot, c'est plus juste, oui.
Parce que c'est absolument extraordinaire. Alors, cette pièce-là, elle a déjà été jouée en 2019, c'est ça?
Oui, exactement, à Fred Barry. Et puis, depuis ce temps, on tente de le reprendre, mais une fâcheuse pandémie nous empêche.
Oui, mais on va la voir.
Oui, on va la voir. On va la voir prochainement, quoique c'est un peu chaud pour les prochaines représentations, mais on croise les doigts puis on espère qu'on va se rendre devant le public parce que le public nous manque. Hein.
Oh là là,
et vous nous manquez
aussi.
Oui,
c'est ça, vous nous manquez aussi, ça c'est sûr. Donc, je suis avec notre chroniqueur Mathieu Tessier, qui aime aussi particulièrement le théâtre. C'est pour ça qu'on a choisi ce jour-là pour te recevoir. Et puis, normalement, ça devrait débuter la semaine prochaine. Qu'en est-il de ce qui est dit?
Mais,
c'est sur la glace?
Je ne sais pas encore. Donc, c'est certain que nous, on se prépare. Et puis, c'est possible que les premières représentations n'aient pas lieu. Hein. On se doute que rendu au 11 janvier, c'est pas possible que le 18, la semaine prochaine, ça n'ait pas lieu. Mais je ne sais pas encore. Le théâtre n'a pas encore tout à fait annoncé de décision à ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, on se prépare et puis on aimerait vraiment bien rencontrer le public, là, même si la situation est un petit peu chaude en ce moment.
Alors, c'est l'histoire d'une campagne électorale. Ah, tiens!
Exactement.
En plus de ça, ce qui me fait sourire dans l'histoire, c'est que moi, en tant que Française, notre campagne électorale, elle est dans quelques mois pour la France. Ça va se passer au printemps, donc c'est vraiment tout chaud, tout prêt, quoi. Ça pourrait presque être du copier-coller. Donc, ils s'affrontent, des discours enflammés, des choses, alors...
En fait, c'est deux étudiants qui se retrouvent dans une école secondaire, on pourrait dire très, très mal en point, avec une direction pour le moins douteuse. Et puis, le directeur, parce qu'il a reçu des subventions, décide d'organiser la semaine du futur. Bon. Et puis, dans cette semaine-là, il y a des élections scolaires. Les élèves doivent présenter des projets pour cette dite semaine du futur-là. Et puis, c'est à ça qu'on assiste. Et puis, dans le fond, tout ça est un prétexte à mettre un peu en perspective le fait que ces deux jeunes-là tentent vraiment de sauver le monde ou ont une envie que les choses se passent vraiment bien, vraiment mieux, mais ils font face à une espèce d'inertie et d'absurdité latente chez les adultes. Et puis, c'est ce clash-là que la pièce raconte, mais elle se termine quand même dans une espèce de rapprochement entre ces deux mondes-là, entre le monde des adolescents puis celui des adultes, où il y a une espèce de main tendue vers l'autre, où c'est pas dans une espèce de guerre ou en se braquant les uns contre les autres, mais plutôt en se tendant la main que les choses vont se régler, s'améliorer.
Alors moi, je me suis attardée sur des questions de résistance citoyenne et d'abus de pouvoir.
Me demande bien pourquoi.
Autant te dire que ça m'a fait lever le sourcil en me disant « Ah bon?
» Oui, effectivement, il est question de ça parce que pour le directeur de cette école est pour le moins éthique et puis les élèves vont pour le moins non éthique, en fait, ce que je veux dire. Puis les élèves vont résister à ce directeur un peu douteux.
D'accord. Alors on va voir ça. En tout cas, regarde, rien qu'en le lisant, et puis en sachant que c'est vous deux qui avez travaillé dessus, rien que ça me donne l'envie d'y aller.
Ah ben c'est un vrai plaisir, hein. Les mots de David sont toujours assez fulgurants, flamboyants. Ce qui est bien avec David, c'est que c'est pas un peureux, quoi. Même si c'est un théâtre qui est pour adolescents, ben il évite pas les sujets, il évite pas certains vocabulaires, il se gêne pas pour aller à fond la caisse, même si c'est des personnages adolescents. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de doigté où il est capable de manier la profondeur, mais aussi l'humour. Et ça donne beaucoup de texture à ses propositions textuelles. Puis pour moi, c'est un vrai plaisir à mettre en scène. C'est-à-dire qu'on peut aller dans des univers qui sont complètement éclatés, fantasques.
Tu le suis, là, mais comme ça, là, c'est vraiment... Enfin, on va en parler de la mise en scène, on va faire une petite pause musicale, tu restes avec nous, puis on te retrouve tout de suite après.
Okay.
Donc on va écouter Élodie et ses muses qui nous chantent Clopin Clopin.
La 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 la
voilà, donc on se retrouve avec Philippe Cyr. Philippe, alors on va parler un petit peu de mise en scène.
Oui.
Quand même. Et puis, il faut dire que tu es actuellement directeur artistique et co-directeur général du Prospero.
Tout à fait, oui, depuis le mois d'août dernier.
Bravo! Félicitations, merci. J'adore ce théâtre. Vraiment.
Oui, drôle de moment ces temps-ci pour apprendre à faire la direction d'un théâtre, mais c'est passionnant.
Drôle de moment, mais en tout cas, ça a l'air qu'avec le poids des fourmis, ça va être encore quelque chose qui, pour ceux qui l'ont vu, c'est déjà le cas. Pour ceux qui vont le voir, ça va être aussi important que ce que j'ai ressenti pour le brasier. Donc j'ai très hâte d'assister à ça. Je peux te le dire très franchement. Et c'est surtout que l'écriture des textes, tu n'y participes pas à l'écriture du texte?
J'y participe pas, mais en même temps, quand on est dans un travail de création comme celui-là, par exemple, ce texte-ci, je suis arrivé très tôt dans le processus, donc j'ai lu plusieurs versions. Oui. Donc, inévitablement, il y a des parties du texte où la structure du texte finit par se construire quand même dans un dialogue avec, avec David, avec l'auteur, même si c'est lui qui en reste le principal maître d'œuvre. C'est vraiment le développement du projet fait qu'on dialogue, mais moi, mais aussi toute l'équipe, hein, les concepteurs, les acteurs. Vraiment, dans un projet de création comme celui-là, on commence avec un texte, mais on finit pas avec le même.
C'est comme un travail d'éditeur, hein?
Absolument.
Quand tu participes
Mais mon regard reste toujours celui du metteur en scène. C'est-à-dire que moi, je suis tout le temps à la recherche de la théâtralité, puis j'essaie de concevoir, puis d'aller chercher le maximum de ce projet-là. Puis, donc, des fois, je vais faire des interventions auprès de l'auteur pour plutôt pour intégrer le travail de conception puis de direction artistique à travers l'écriture du texte pour que tout ça fasse un tout cohérent à son plein potentiel.
D'accord. On met un petit mot pour le théâtre Bluff, pour la compagnie.
Oui. Oui. Bluff, c'est une compagnie de théâtre absolument...
Comment on doit le comprendre, Bluff?
je pense que c'est bluffant, on pourrait dire.
D'accord.
On pourrait dire ça comme ça. Ils font un travail absolument remarquable depuis plus de 30 ans. Ils font un travail auprès du jeune public. Les directeurs actuels, Mario Borges, Joachim Tanguay, sont des gens qui soutiennent les projets d'une manière... absolument remarquable. Et aussi, ils font du théâtre pour adolescents, mais à mon avis, ils font du théâtre pour tout le monde.
Ah oui.
La manière dont ils mènent les projets, c'est pour moi vraiment pas aussi niché que la mission pourrait le laisser croire.
Comme ça le dit dans le texte, c'est vraiment c'est vraiment engagé sur les préoccupations du monde d'aujourd'hui, et ça, c'est le côté formidable de la chose.
Ouais.
Et c'est sûr que quand il est dit dans le texte, je me permets de lire parce que c'est vrai, comment ne pas s'indigner face aux injustices, aux conflits et aux aberrations de notre monde. Mais ça, je voudrais le mettre en gros dans le ciel. Comment tolérer l'intolérable? Comment résister? Si c'est pas en accord avec plein de choses qui se passent, écoute.
Absolument. Puis ben c'est ce que ces jeunes-là apprennent un peu dans le parcours qu'ils ont à faire dans le spectacle. C'est comment vivre aujourd'hui en étant pleinement conscient de tout ça. Comment on peut continuer à vivre sa vie normalement tout en étant conscient des problèmes, tout en agissant d'une certaine manière, mais en restant heureux, positif malgré tout, malgré cette grande anxiété qui peut nous envahir. En ce moment, on est dans une période assez particulière où on parle beaucoup de problèmes de santé mentale, où c'est une période qui est difficile à traverser pour
de suicide
personnes.
Aussi.
Oui, exactement. Comment on garde la tête droite malgré tout ça?
Garder le lien, refuser d'être coupé du lien.
Exact.
Refuser d'être coupé du lien. Voilà.
Ça serait déjà une bonne solution.
Est-ce que la pièce apporte des solutions ou c'est une fenêtre ouverte sur une discussion? Ouais.
C'est une fenêtre ouverte sur une discussion, évidemment. Ça serait vraiment, pour moi, assez difficile d'amener des solutions, d'ordre pratique à des problèmes qui sont, ma foi, complètement gigantesques. Mmh. La pièce aborde ça plutôt d'un angle intime, hein? C'est-à-dire notre sentiment par rapport à ces situations-là, puis notre sentiment de révolte, mais notre sentiment d'impuissance, notre anxiété. Comment on fait pour vivre avec ça au quotidien? Puis, je le disais tout à l'heure, mais une des réponses qu'on apporte, c'est plutôt une réponse, je dirais, humaine, c'est la main tendue vers
oui.
l'autre,
ouais,
ben le
oui.
dialogue. Donc,
voilà.
dans ce sens, c'est de cette manière-là que la pièce répond. C'est ça la solution qu'on a à proposer.
Ah, c'est formidable. Je crois que Mathieu avait ouais. une question pour toi.
Avez-vous pensé une alternative? Non pas que je vous souhaite que la pièce
non.
ne soit pas présentée sur
Attention,
scène, mais
je croise les doigts.
Mais avez-vous pensé à, je sais pas, une web diffusion ou avez-vous pensé à un plan B?
Une excellente captation qu'on a fait en version distanciée l'automne dernier, qu'on a diffusée d'ailleurs sur le web déjà à plusieurs écoles durant la première partie de la pandémie, mais là, vraiment, on est rendu à rencontrer le,
ouais.
le public en chair et en os. On veut le voir. Puis en même temps, ben, je suis conscient hein, que la situation actuelle est assez difficile, que les cas augmentent, que les hôpitaux sont surchargés. Donc en même temps, il y a une part de moi qui me dit qu'il y a une solidarité à avoir avec le reste de la société. Mais tout de même, j'aurais envie qu'on puisse rencontrer le public, même si il faudrait des mesures... comment je dirais, des mesures extrêmement...
Ben, les mesures de distanciation.
Des mesures de distanciation
ouais.
à jauge réduite.
Mais dans la salle, excuse-moi, mais dans la salle Fred Barry, ça fait, elle est déjà pas très grande, donc...
Mmh. Non, il y a 120 spectateurs.
Oui. Si t'en mets 60.
Petit. Mais il y aurait capacité de jouer à demi ou encore au tiers de la jauge. Hein. On l'a fait au printemps dernier. Moi, j'ai créé un spectacle où on a présenté au tiers de la jauge, mais les acteurs étaient formidablement heureux de rencontrer du public, même
oui.
si le public était masqué et les gens étaient heureux d'assister à une représentation.
Bien sûr.
Donc, je pense que quand on sera rendu là, pour le moment, c'est très, très chaud. Je pense actuellement, là, la COVID, il y a encore raison de faire attention. Mais
oui.
bientôt, je pense qu'on pourrait imaginer réouvrir les portes.
Le ciel t'entende, parce que ça
oui.
fait partie des choses dont on a besoin, la culture, au même titre qu'avoir de quoi manger dans son frigo et de garder du lien avec les autres. En
oui,
tout cas,
absolument.
C'est,
en ce moment,
c'est mon opinion.
Que si on est capable d'aller au IKEA, on devrait pouvoir aller au théâtre.
Oui, tout à fait. Je suis pour. Je suis pour. Donc, on arrive un petit peu à la fin de cette entrevue. Ça a été un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pendant la minute que nous avons, qui nous reste?
J'ai envie de vous dire que les acteurs du Poids des fourmis, c'est vraiment quatre performeurs extraordinaires. Nathalie Claude, Gaëtan Nadeau, Gabrielle Zaveau, Elisabeth Smith. C'est vraiment une équipe que je chéris beaucoup, qui amène beaucoup de vie, beaucoup d'âme à cet univers-là que David et moi avons créé. C'est vraiment des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, tout comme l'équipe de conception dont Odile Gamache, qui est une fidèle collaboratrice avec moi, elle a aussi fait la scénographie du brasier. Donc, on réussit toujours ensemble à amener, à pousser nos idées, nos intentions à un niveau que moi, je trouve extrêmement satisfaisant artistiquement dans ma démarche. Alors, ici, c'est tout aussi flamboyant que le brasier.
En tout cas, je le souhaite parce que ça m'avait tellement bouleversée que je tiens à être bouleversée par le Poids des fourmis. on donnera les dates exactes dès qu'on les saura un petit peu, qu'il y aura des
oui.
ouvertures et on va se faire un plaisir d'en reparler. Merci mille fois, Philippe, d'avoir été avec nous. C'était Philippe Cyr.
Merci
beaucoup.
Un grand merci de nous recevoir et grand merci pour votre enthousiasme. Ça fait chaud au cœur.
Elle avait très hâte.
Oui, j'avais très hâte, c'est vrai. À bientôt et puis au plaisir d'être dans la salle pour assister à ça. Au revoir, Philippe.
Plaisir de vous rencontrer. OK, au revoir.
Au revoir. Donc, on se quitte en musique avec Alexandre Desilets qui nous chante « Les sentiments ».
Je vois. vois ta couleur, mais le mirage est trop beau. Je ne t'en veux pas si tu joues dans ma tête, c'est bon, tant que tu me joues sur les sentiments. Allez.
Restez avec nous, on retrouve Mathieu Tessier dans un instant.
Écoutez les Faramineux avec Arlette Fara.
Qu'est-ce qu'on leur laisse? Un arbre, un mot, un geste, l'ivresse, un sourire. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Le silence résigné ou le cri révolté? Qu'est-ce qu'on leur laisse? Plus fine des regrets, un quartier délaissé, des ombres dans la nuit. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Qu'est-ce qu'on leur laisse? Cathédrale d'oubli, l'insolence des promesses. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Des kilos d'appel, catacombes des mois, des petits riens. Qu'est-ce qu'on leur laisse? L'odeur des fruits sauvages, des papiers sur la table, photos d'une vie sur l'étagère. Chanter jusqu'au délire, besoin d'amour, besoin d'amour.
soin de poésie au fond des jours, au fond du cœur. Chanter, chanter, chanter jusqu'au délire. Besoin d'amour, besoin de poésie au fond du cœur, au fond des jours. Chanter jusqu'au délire. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Les nuages qui passent, la musique ou le bruit. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Des arbres en prière, des oiseaux incurables. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Des mots murmurés, le courage d'avancer, le courage de rêver.
Qu'est-ce qu'on leur laisse, Arlette?
Alors, on vient d'entendre, d'abord on annonce, on vient d'entendre Richard Séguin, ce qu'on leur laisse. Alors, Richard Séguin, parce que grâce à toi, Mathieu, j'ai appris qu'il habitait cet endroit-là.
Oui, Saint-Venant-de-Paquette.
Qu'est-ce que c'est joli. Je trouve le nom très poétique. Et en plus, ça m'a amené à aller sur leur site, à regarder le coin qui est magnifique. C'est un magnifique coin de campagne, c'est beau.
Oui.
Je ne connais pas et ça me permet d'en apprendre un petit peu plus sur certaines régions du Québec que je n'ai pas encore visitées.
Ah bien, c'est exactement l'idée de la température. Non pas de la température, mais de ma chronique.
Alors allons-y, on t'écoute.
Ce nouveau jour qui se lève sur l'espérance me ramène à la vie. Ces paroles mille fois narrées par un de mes aïeuls m'intriguent toujours autant. En fait, loin de me parler de lui, de mon aïeul, de sa vie, de ses échecs, de sa philosophie et son œuvre, elle me parle probablement davantage de moi. Et je suis, comme je le répète souvent, ceux qui me connaissent n'ont point besoin de me deviner, je suis un optimiste. Et j'aurais utilisé l'expression en ce moment, un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide.
Ah ben un verre à moitié plein.
Mais je me suis déjà fait reprendre par un humoriste américain qui me disait, moi je demande toujours qu'on me demande de quoi le verre est-il plein.
Ah oui,
et je pense
vrai.
Que c'est très bien parce qu'un verre, un verre d'eau à moitié plein, c'est mieux qu'un verre d'eau à moitié vide. Mais un verre d'eau à moitié vide me dit aussi que la personne est hydratée. Donc, c'est pas une mauvaise nouvelle. Si le verre est rempli de sang, par exemple, est-ce qu'on préfère un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein? Je préfère à moitié plein lorsque je donne du sang. Tandis que si tu perds du sang, je le préfère à moitié vide. Donc, je n'utiliserai pas cette expression-là. Pour ma part, j'espère que lorsque j'irai rejoindre mon grand-père dans le tambour céleste qui accueille depuis le début de l'humanité les poètes, les artistes, mais aussi les gens comme vous et moi, j'espère que j'aurai sur ma vie un regard, mais que je serai fier et aussi que je n'aurai pas mesuré ma vie ou les moments importants de ma vie à coups de verre à moitié plein et de verre à moitié vide. J'espère, et j'y travaille silencieusement, que mon patrimoine sera, à défaut d'être agréable, du moins non nuisible, qui sera ludique davantage qu'économique et que ma descendance portera la pierre de rivière, fière et digne, comme nos belles rivières. Mais ce n'est pas le sujet de ma chronique. Je suis un optimiste, certes, mais de quoi? Pourquoi suis-je un optimiste? Que vais-je laisser en héritage? C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson de Richard Séguin, pour plein de raisons, en fait. Que vais-je laisser en héritage? C'est un des questionnements que j'ai eu en visitant Saint-Venant-de-Paquette. Et comme, faut reconnaître, on n'est pas tous des mégalomaniaques qui rêvons de détruire la planète, de détruire la dignité humaine, puis d'exploiter les autres afin que notre nom figure sur une bâtisse, sur une navette spatiale, ou simplement pour figurer dans la liste des 50 ou 500 personnes les plus riches de la planète. La vie vaut certainement plus que ça, et j'en suis certain. J'ai eu ces réflexions-là en visitant Saint-Venant-de-Paquette, qui est surnommée la Tourterelle de l'Estrie.
Ah, c'est joli, ça!
Oui. Alors, décortiquons un peu l'ensemble de cette phrase. L'Estrie, qu'est-ce que l'Estrie? où se trouve l'Estrie. L'Estrie, c'est la région la plus au sud de la province de Québec. Elle est donc à la frontière avec les États-Unis. Les villes les plus importantes qu'on trouve en Estrie sont Magog, Quaticook, le lac Mégantic et Windsor, entre autres. Et en 2016, on pouvait compter 333 704 Estriens et Estriennes. Et Estrie viendrait de l'appellation, de l'ancienne appellation de Eastern Township, que les premiers colons anglais qui sont arrivés à la fin du 18e siècle auraient donné à la région. On est dans les Appalaches, c'est donc on retrouve beaucoup de monts, dont le mont Gosford. Il y a aussi beaucoup de lacs et de rivières, comme le lac Memphremagog, le lac Massawippi, le lac Brompton, le lac Mégantic et les rivières Haute Chaudière, Quaticook, la rivière au saumon et la rivière Missisquoi. Ensuite, la tourterelle, parce qu'on l'appelle la tourterelle de l'Estrie. C'est le nom vernaculaire générique donné à des oiseaux ou aux oiseaux appartenant à trois genres de la famille des colombidés. La tourterelle, c'est un oiseau migrateur, voisin de la colombe, qui est surtout connue au Québec, il faut le dire, parce qu'elle a été la grande vedette d'une chanson qu'on a chantée au pape Jean-Paul II quand il est passé au Québec.
Ah d'accord.
C'est une mauvaise blague.
Bon,
elle est aussi symbole de douceur et de grâce, d'innocence. C'est une des raisons pourquoi Saint-Venant de Paquette l'a prise comme emblème, ainsi que quelques États américains comme le Michigan et le Wisconsin. Mais c'est pas uniquement pour ça aussi qu'on a utilisé l'emblème de la tourterelle. Saviez-vous combien de personnes vivaient en 2016 à Saint-Venant-de-Paquette?
Non.
97. On trouvait 97 paquetteviliens et paquetteviliennes. Ça, je dois dire ça le matin pour me réchauffer la bouche. Et qui sont probablement très fiers de leur grande nuit de la poésie, ou la grande nuit de poésie de Saint-Venant, la maison de l'arbre, du musée Église, du circuit découverte et de la voie des pionniers. Et certainement la plus connue des attractions touristiques que l'on trouve à Saint-Venant-de-Paquette, c'est sans doute son sentier poétique, qui est une idée de Richard Séguin, qui a pour but de, en fait, inscrire dans le village, dans le paysage du village, les mots de nos plus grands poètes. Donc, on va retrouver des mots de Néligan, de Grandbois, de Leclerc, de Miron, de Vignon, mais aussi d'une quarantaine d'autres de poètes. Et il y a aussi, en fait, c'est un projet qui a réuni tout le village, dont les talents en horticulture, pardon, de René Deschênes et de Guy Laliberté. Alors, il y a des artistes en arts visuels, les agriculteurs, les sculpteurs, les producteurs, les forestiers, les architectes. En fait, résumons un peu le projet selon les propres mots de Richard Séguin. Nous voilà 30 autour de la table de la salle communautaire du village avec des rires, du bonheur, des outils et des rêves. On prépare la place pour accueillir les mots des poètes. L'un connaît le secret des jardins, l'autre le passé de la pierre, l'un sait planter des arbres, l'autre possède le don de déplacer la terre. C'est donc une rencontre concrète des forces vives de la région, des bras, du cœur, de la connaissance des plantes, les dessins sur le coin de la table, le travail des femmes, des hommes et des enfants. Défricher, planter, semer, marcher.
Wow.
Et quand je suis allé, je me disais justement, ça c'est des gens qui ont compris qu'un héritage, ça peut être aussi ça. Des mots et des fleurs. En plus, ça vous permet de connaître. Moi, j'avais amené des amis qui ne venaient pas du Québec. Ça leur permet de connaître des poètes du Québec. C'était l'idée. C'est l'idée phare de Richard Séguin qui l'a instauré ou qui l'a implanté. On peut dire ça, qui a planté, oui, à Saint-Venant-de-Paquette. Je vous invite à y aller.
C'est une très belle idée.
Oui.
C'est ouvert toutes les fins de semaine de la mi-mai à la mi-octobre.
Exact.
Donc... Allons-y. Et puis, grâce à toi, il y a plein de coins du Québec qui me donnent envie d'être visité. Donc, merci pour ça, Mathieu.
C'était en direction des États-Unis. Puis finalement, on n'est pas traversé.
Ouais.
On est resté au Québec. On est revenu à Montréal.
C'est très bon. On va partir en musique?
Oui.
Avec Fiona Apple qui nous chante « I want you to love me ».«
I want you to love me ».
Waited many years, every print I left upon the track. here. And next year it'll be clear. This was only leading me to that. And by that time I hope that you
Voilà, bah Mathieu Tessier rit déjà de tout ce qu'il va nous faire apprendre, puisque maintenant, nous arrivons au moment tant apprécié par les auditrices et les auditeurs, et par moi-même, parce que je gagne souvent, donc ça me fait très très plaisir.
Elle gagne de plus en plus, en fait, c'est vrai.
Où il va essayer de me faire chuter sur des expressions du Québec que je ne connais pas complètement. Mais à voir, à voir. Alors Mathieu, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas me faire deviner?
Expression numéro un aujourd'hui, nourris bien ton cochon, il viendra chier sur le perron.
Ça donne une image très claire.
Est-ce que c'est A, tester le véganisme ou le végétalisme d'une personne en lui donnant de la nourriture extrêmement épicée et de ne lui offrir qu'un verre de lait pour la soulager? Non? OK. Est-ce inviter une personne dans ton logis, lui offrir de la nourriture, du confort, même du réconfort pour te faire voler et vandaliser ta maison? Autrement dit, faire du bien à quelqu'un qui ne le mérite pas. Ou rentrer très tard le soir après avoir bien fêté, se calmer une fringale en dévalisant le réfrigérateur, laisser ses vêtements partout dans l'appartement, aller se coucher et se coller sur sa blonde pour se rendre compte le lendemain matin que tu t'es trompé d'appartement et que tu as dormi en cuillère avec le voisin d'en haut qui a voté conservateur.
Alors, c'est la 2.
Ben, Caroline.
C'est la réponse 2.
Oui. Je pense que c'est ma dernière virgule qui m'a trahi. Félicitations.
Mais c'est pas ça, c'est celle qui sans connaître l'expression, c'était celle qui correspondait le plus à ce que j'aurais pu imaginer.
D'accord.
Voilà. Alors la deuxième.
Être chicken.
Être chicken.
Ouais.
Être comme le poulet.
Exactement. Est-ce que c'est l'incapacité d'épeler des noms comme certains employés de chez Starbucks, pour ne pas les nommer? Ce qui fait que durant une blind date organisée par ma sœur, j'appelais Julie une fille qui s'appelait en fait Pétronille. Non? Avoir l'âme qui chatoie parce que la fine fleur qu'elle est te fait vibrer comme un tuyau de poêle en plein blizzard. On se sent chicken.
Joli, ça.
Ou encore, le bonheur commence toujours par épouvanter et la plupart des gens ne surmontent pas cette peur. Ça, c'est une citation de Jean Dutour. Ou encore, le courageux ne meurt qu'une seule fois, le lâche est déjà mort 1000 fois.
Alors, j'ai rien compris à tout ce que tu as dit. Celle qui m'inspire le plus, mais qui n'a pas l'air d'être la bonne, mais ça fait rien, je la choisis quand même. Je suis responsable de mes actes. C'est la troisième.
Deux en deux. Est-ce que c'est ce que tu aurais dit?
Ouais, définitivement. C'est une expression qu'on utilise aussi. En tout cas, que moi, j'ai déjà utilisé plusieurs fois même.
Ah non, moi non, mais j'en apprends tous les jours. En fait, chaque semaine en tout cas.
Piquer une fouille.
Piquer une fouille,
ouais,
d'accord.
Piquer une fouille. Est-ce fait trébucher un archéologue qui tente de trouver le cercueil de Champlain en déambulant dans les rues du Vieux-Québec avec un pendule, un verre de cidre et une carte Inspire? Se relevant, il pourrait te dire « Hey, je viens de piquer toute une fouille. » Est-ce écouter en boucle avant de s'endormir les berceuses ukrainiennes qui te rappellent ton enfance, Mishka et le Danube? Ou piquer une fouille, est-ce le fait d'enlever la fine couche de glace qui se forme parfois sur la moustache des vieux et des vieilles lorsqu'ils attendent l'autobus à moins 20?
Ben écoute, j'en sais rien. Ma préférence, alors j'ai aucune idée, mais ma préférence irait vers la numéro 1.
3 en 3.
Oh, mais je suis trop... Nicolas!
Moi, je savais même pas que c'était la 1.
Applaud, s'il te plaît. Je commence à avoir tellement l'habitude de ce qu'il écrit que j'arrive même à comprendre à travers tout son imbroglio.
Voilà.
Merci, Nico. Merci, merci.
Une fouille, c'est tombé. C'est s'enfargé quelque part. Ça prend pas la tête à Papineau.
Ah, j'ai déjà entendu cette expression, mais je ne sais pas quoi elle correspond.
Ça fait plaisir parce que lui, il la connaît.
D'accord.
Donc là, faut pas qu'il réussisse à la savoir. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que la crème anti-inflammatoire, là, c'est pas du médicament pour les yeux. Puis qu'il est inutile au mois de janvier de mettre des bottes à tes pattes de terre parce qu'elles auront pas froid ou de crier une réponse en écoutant un quiz à la télé parce qu'ils t'entendront pas. Ça prend pas la tête à Papineau. Ou est-ce qu'il vaut mieux partir en avance lorsqu'on se dirige vers la rive sud, qu'il faut parfois prendre le pont Champlain au lieu de prendre le pont Mercier parce qu'on y pêche les meilleurs achigans du fleuve Saint-Laurent. Non?
Et la 3?
Ouais, c'est la dérivation de son port de tête la première fois qu'on embrasse quelqu'un. Ça prend pas la tête à Papineau.
Alors, aucune idée, mais je voterai pour la 1. Et toi?
Nicolas?
J'ai pas bien entendu la 3.
La déviation de son port de tête la première fois qu'on embrasse quelqu'un.
Non, ok, c'est pas elle.
C'est la une.
Oui, c'est la
oui,
une.
C'est la une.
Oh!
Diantre.
Ah, pour l'instant, je suis sur un sans faute, là. Ouais. Je suis trop contente.
Celle-là, tu vas probablement l'avoir aussi. On l'a Ça fait partie d'une. Peu importe. Être le boss des bécosses.
Ouais.
Ouais, t'as pas l'air certaine.
Non.
Est-ce à chaque anniversaire de votre couple, allez vous cacher dans les toilettes des employés d'un musée, différent à chaque fois, et se faire une raclette en regardant les estampes lituaniennes? Ça, c'est être le boss des bécosses ou être le boss des bécosses, c'est de confondre la signalisation routière et la langue des signes quand tu roules en fixie et que tu veux signifier à quelqu'un que tu vas t'arrêter au prochain passage cloutier. Non? Ou rendre les selles de tout le monde liquides, hein? Parce que tu te penses le plus beau ou la plus belle ou le plus fort ou la plus forte ou que tu es le plus rapide à vider ton verre de punch ou que tu connais tout le monde tout le temps, tu méprises les autres et ignores les traitements comme les années 1950.
Oh là là, mais tous mes cœurs dans ce que tu as répondu. Alors, je sais pas, je crois que je vais aller vers celle que je considère un petit peu plus propre que les autres, c'est la une.
C'est la 3.
Yeah! La 3.
Ouais.
Elle a raison. Ah non, mais je la trouvais tellement dégueu, la 3, que j'ai pas osé le faire.
Se prendre pour un autre, en fait.
Ah, se prendre pour un autre, ouais. Mais au milieu de tout ce que tu as raconté, ça me donnait envie de gerber.
Tant mieux.
D'accord,
mais
alors bon, j'ai chuté sur une. Allez,
oui, mais c'est
okay.
Pas grave. Le verbe enfirwaper.
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 Enfirwaper. Jamais entendu.
Est-ce que c'est avaler des milles et des kilomètres de route improvisée, écouter de la musique, les fenêtres baissées et décider le matin même ce qu'on va faire de notre journée? Enfirwaper. Ou est-ce faire à croire à son frère que tu peux patiner sur le lac gelé avec, pour seul patin, deux fers à repasser branchés avec un dynamo alimenté par tes propres gaz internes? Bon, d'accord, je l'admets, c'est un peu exagéré, mais on était jeunes. OS 3, écoutez Bill Evans nous jouer « Since We Met », tout en lapant silencieusement l'eau malicieuse des jours sans pain.
Ben, la une.
Je connais tellement pas l'expression, je suis déjà encore pogné sur l'expression.
Non, c'est la deux.
C'est la deux?
Whopper, c'est monter un bateau à quelqu'un, si tu veux.
Ouais,
je me souhaite en faire
Alors là, tu m'as eu, là, avec tes explications vaseuses. Ouais, je suis même pas arrivé. Parce que d'habitude, au milieu de tout ce que raconte Mathieu, j'arrive quand même à trouver un sens, à m'accrocher à quelque chose. Mais alors là, cette fois, absolument pas. Bravo, Mathieu.
Merci, j'ai réussi. Accrocher ses sapins. Ah, ses sapins. Ça, c'est ce que je vais faire en fin de semaine. Accrocher ses patins.
Accrocher ses patins. Oui.
Lui, Nicolas le sait. Alors, voyons voir si je peux le mêler. Ceux qui sont ravissants. Qu'une douleur menstruelle savent parfois tellement se faire apprécier par leurs collègues de travail qu'ils sont souvent invités, obligés, voire contraints de démissionner. On dira qu'ils accrochent leurs patins.
Oui.
Du temps où embrasser ou même faire l'amour s'apprenait en cachette sur les statues et autres représentations religieuses, on dit alors « Ne me cherchez pas ce soir, camarade, je fais de la patine. » Et on accrochait nos patins ou on se mariait.
Oui.
Ou aiguiser ses patins de frein de vélo avec de la mousse, de la sécheuse qu'on avait mis de côté pour faire de la pâte à modeler.
J'arrive même pas à tout suivre tellement la une.
Moi, tu m'as perdu. Moi, j'ai
perdu aussi.
J'ai une idée
aussi,
claire en tête, c'est quoi, mais là, les trois exprès.
Mais la une.
C'était bien la une.
Ah.
Tu m'as eu dans ton explication.
J'ai eu un mot auquel me raccrocher où je me suis dit, ouais, ça doit être ça. Mais là, franchement, c'est tellement compliqué ce que tu nous mets comme explication que tu arrives à me perdre de nouveau. Tu as compris que je m'étais accroché à certaines choses. Alors là, tu compliques la chose. Ouais. Bravo, Mathieu.
Bah, oui,
bravo. Non. Mais j'ai quand même eu celle-ci. Il nous en reste une à faire un peu? Ou pas? Non? Alors, on part en musique.
La semaine prochaine, ce sera se pacter la fraise. On commencera avec celle-là.
D'accord. Je ne regarderai pas ce que c'est. Tu nous annonces la chanson, Mathieu?
Oui, c'est... Ratatat.
Oui.
Pricks of Brightness.
Allez, on y va.
Thank you.
Alors voilà, on arrive à la fin de cette émission et puis on en est au moment des remerciements. Alors bien sûr, on remercie Philippe Cyr pour la pièce de théâtre Le Poids des Fourmis. Le Poids des Fourmis qui normalement aurait commencé à la salle Fred Barry du théâtre Denise Pelletier mardi prochain, le 18. On ne sait pas encore, donc on vous l'annoncera dès que ça sera fait, dès qu'on en saura un petit peu plus sur les ouvertures qui vont se faire, je l'espère, le plus tôt possible. Mathieu Tessier, ça a toujours été un plaisir. Merci pour ta chronique. Ça me permet de connaître plein de coins et de me noter des endroits à aller me promener dès qu'on pourra de nouveau le faire. Et puis merci à Nicolas Wartmann pour la technique et puis pour les chansons. Et puis moi je vous dis à demain, et puis toi Mathieu je te dis à la semaine prochaine.
Tout à fait.
Nicolas, nous on se retrouve demain.
Exactement.
Alors avec plaisir, merci à toutes et tous, j'espère que vous vous êtes autant amusés que nous. Au revoir.